They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
What will be your reaction?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的母亲南木家正忙着
正在说话。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission proposée ce matin par Tiffaine de Rocchini, mais aussi Clément Salazar, Xavier Martinet, Audrey Rameau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Élise Le. On poursuit notre série consacrée aux coalitions, on va parler ce matin de coalitions politiques. Nous irons de l'extrême droite à l'extrême gauche, des groupes de la droite radicale au Parlement européen, la coalition entre Syriza, les souverainistes du parti, les Grecs indépendants... En passant par la coalition allemande avec la CDU d'Angela Merkel et le SPD de Sigmar Gabriel, pour commencer, cap sur l'extrême droite, FN. FPO Ligue du Nord, l'entente des extrêmes. Quelques jours après la spectaculaire percée du FPO en Haute-Autriche, l'extrême droite autrichienne n'a finalement pas réussi à arracher la mairie de Vienne aux sociaux-démocrates lors des élections municipales du 11 octobre dernier. Mais... l'ancien parti de Jörg Haider a tout de même réalisé un score historique, récoltant près de 32% des suffrages dans une ville historiquement tenue par les socialistes contre 39% pour le maire sortant. Une nouvelle victoire qui continue d'imposer le FPO comme une force centrale de la vie politique autrichienne, surfant sur la crise des migrants, sur les questions sécuritaires. La droite radicale poursuit sa progression un peu partout en Europe. En Suisse, par exemple, également, la droite populiste a fait une nouvelle poussée au Parlement ce dimanche lors des élections fédérales, remportant 11 sièges de plus par rapport à 2007. Désormais, l'extrême droite européenne entend être associé au pouvoir exécutif et législatif et n'hésite pas à former des alliances pour peser davantage dans le débat politique. Après une percée générale aux élections européennes de mai 2014, deux nouveaux groupes ont été créés au Parlement européen.
We have put a group together. It was called the Europe of Freedom and Democracy Group.
Ensemble, nous avons formé un groupe qui s'appelait Europe, Liberté, Démocratie dans l'ancien Parlement et qui s'appellera maintenant Europe de la Liberté et de la Démocratie Directe, afin de traduire un souhait partagé par l'ensemble des citoyens européens pour qu'ils aient leur mot à dire et pour que tout mouvement plus approfondi en faveur d'une centralisation des pouvoirs puisse seulement être légitimé par un référendum indépendant et juste.
J'ai la joie de vous annoncer la création du groupe Europe des Nations et des Libertés. S'ajoute à notre coordination initiale constituée de nos collègues du FPO autrichien, du PVV néerlandais, de la Ligue du Nord italienne et du Vlaams Belang flamand, deux députés polonais, M. Marusik et Zoltek. La constitution de ce groupe est une bonne nouvelle pour nos formations, mais aussi pour nos pays, pour nos peuples, pour la liberté.
Voilà, premier groupe parlementaire d'extrême droite, groupe Europe de la Liberté et de la Démocratie autour du UKIP, le parti populiste britannique de Nigel Farage, et le second groupe Europe des Nations et des Libertés autour du FN et du PVV, le parti pour la liberté du néerlandais Geert Wilders. Alors sur quelle base idéologique ces partis populistes se sont-ils rassemblés? Peuvent-ils réellement exercer une pression au sein du Parlement européen? Nigel Farage et Marine Le Pen sont-ils vraiment trop différents pour s'unir? Et dans quelle mesure ces coalitions leur permettent-elles aussi, et peut-être d'abord, de consolider leur assise nationale. On quittera ensuite la droite radicale pour passer de l'autre côté de l'échiquier politique avec la coalition Syriza en Grèce, fragilisée ou peut-être renforcée finalement par la sécession de sa frange la plus radicale. C'est ce que nous verrons tout à l'heure avec Panagiotis Grigoriou. Et puis enfin, Hélène Mière de la Croix nous donnera les clés du modèle allemand, du consensus politique. Traditionnellement, l'Allemagne évidemment conduite par des coalitions. Mais d'abord, pour nous intéresser à cette entente des extrêmes droites, c'est Nicolas Lebourg qu'on a invité, qui est en duplex avec nous. Bonjour. Depuis Perpignan. Bonjour Nicolas Lebourg.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, chercheur au CNRS à l'Université de Montpellier et puis membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Et puis vous êtes co-auteur avec Jean-Yves Camus d'un livre qui devrait paraître dans quelques jours au Seuil, Les droites extrêmes en Europe. Faudra attendre quelques jours encore. Alors d'abord un mot peut-être, Nicolas Lebourg, sur l'actualité. Je le disais dans mon introduction la semaine dernière, le parti de feu Jörg Haider a réalisé un score historique, c'est vrai, dans les élections municipales à Vienne, dépassant pour la première fois de son histoire les 30%. On est à 31%, on est à près de 6 points de plus que l'élection de 2010. Alors c'est vrai que les sociaux-démocrates autrichiens du SPO l'ont emporté avec 39% des voix, mais c'est vrai aussi que l'écart se resserre, ce qui illustre finalement très bien les difficultés générales de la social-démocratie européenne, mais aussi peut-être la montée évidemment en puissance des extrêmes droites européennes qui continuent de grimper, évidemment à la faveur de la crise des réfugiés, s'appuyant sur ce discours alarmiste qui consiste à dénoncer une soi-disant invasion des migrants, on a là finalement le schéma d'une tendance lourde qui traverse l'ensemble de l'Union européenne, Nicolas Lebourg.
Oui, tout à fait. Alors en plus, lorsqu'on regarde le cas de l'Autriche et de la Suisse, c'est particulièrement intéressant. Parce qu'en Autriche, il faut bien voir que l'extrême droite revient de loin. Elle revient du pouvoir et elle avait très mal vécu, comme souvent, lorsqu'on regarde ces affaires de coalition justement, l'extrême droite vit souvent mal la participation au pouvoir. Et lorsque le FPE avait participé au gouvernement, il s'était écroulé ensuite. Il avait participé au gouvernement sur une ligne qui correspond à son programme idéologique de toujours, une ligne extrêmement libérale économiquement en Autriche. En Suisse, on a des extrêmes droites qui assument pleinement un positionnement, on dirait vulgairement ultra-libéral, qui aurait été celui du Front National en France dans les années 1980. Et qu'est-ce qui se passe lorsque le FPE retourne dans l'opposition? Il se refait une santé sur deux thèmes. D'un coup d'un seul, de nouveau retrouver un langage social qu'il avait perdu au pouvoir. Vous voyez que ça ne vaut pas que pour les partis de gouvernement classiques. Et d'autre part, une opposition radicalisée à la question migratoire et à la question de la présence de l'islam et de populations d'origine arabo-musulmane sur le continent européen. Idem en Suisse, vous avez ce positionnement économique tout à fait ultralibéral, disons là, et cette idée qui s'est forcée de plus en plus et qui a accompagné les succès de l'UDC ces dernières années, la ligne de plus en plus dure sur cette question également de l'islam. Je précise que UDC, c'est Union démocratique du centre en français, ce qui peut étonner quand on parle d'extrême droite, mais le nom alémanique, c'est Parti du peuple suisse, ce qui déjà donne mieux l'idée de l'identité populiste du mouvement.
Alors on a l'Autriche, on a la Suisse, on a aussi la Suède, premier pays en proportion d'accueil des migrants, avec les démocrates de Suède, que je mets des guillemets, parce que c'est un parti d'extrême droite, qui sont en tête des sondages avec 25% d'intention de vote. On a les Pays-Bas, évidemment, où le parti de Geert Wilders serait crédité, lui, d'environ 25 sièges au Parlement en cas d'élection, toujours selon les sondages. On a évidemment l'Allemagne aussi, on en parlera tout à l'heure, où le parti eurosceptique, l'Alternative pour l'Allemagne, recueillerait, là encore, au conditionnel, 7% des suffrages en cas d'élection législative, ce qui est absolument énorme pour un pays où, traditionnellement, quand même, l'extrême droite est quasiment inexistante. On a l'Italie, évidemment, avec, là aussi, peut-être le flux migratoire en provenance de Libye qui semble profiter à la Ligue du Nord de Matteo Salvini. Et puis on a quand même trois exceptions. On a le Portugal, où le Parti National Rénovateur a obtenu à peine moins d'1% lors des législatives du 4 octobre dernier. On a l'Espagne. Et puis on a la Finlande aussi, où le Parti des vrais Finlandais, Parti d'extrême droite, est en recul. Voilà trois exceptions dans cette Europe.
Alors, force excellente remarque, j'essaie de le reprendre. Le cas allemand est particulièrement intéressant parce qu'il n'y a jamais eu un parti national populiste qui a pu s'installer de manière durable dans la vie politique allemande. Les républicains ont connu le succès jusqu'à ce que le mur tombe et ce que les clientèles de l'extrême droite changent. Résultat, ça n'a pas permis au parti de vraiment s'implanter durablement. Et puis le fait que son leader était un ancien Waffen-SS nuisait considérablement, bien évidemment, à ce qu'on appellerait aujourd'hui la dédiabolisation.
Qui a démissionné depuis.
Ouais. Mais donc, cette extrême droite nationale populiste, elle a toujours eu du mal à s'installer en Allemagne, pour des raisons aussi de mémoire historique évidente. Résultat, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ce mouvement Pegida qui a beaucoup surpris en France beaucoup d'observateurs. Si vous vous souvenez bien, dans les radios, les télévisions, on était étonnés de ces manifestations de rue, en particulier à Dresde, où il y a eu 25 000 personnes.
Il y en avait 15 000 hier pour le premier anniversaire de Pegida.
Voilà, et donc un mouvement social réel, hein, un mouvement de rue réel, mais parce que justement l'absence politique a amené ce mouvement social. Et qu'est-ce qui se passe? Alternative pour l'Allemagne, que vous évoquiez, c'est un parti de droite à la base, qui évolue sous l'influence de ce mouvement social sur des positions d'opposition aux arabo-musulmans et à l'islam. Et quand on regarde, il y a des gens en France qui ont le nez sur ce qui se passe sur l'extrême droite, il faut le reconnaître, c'est à l'extrême droite radicale, les gens du bloc identitaire, qui sont très soucieux, effectivement, de ce qui se passe dans les consciences en Europe. Et c'est intéressant, la réaction du bloc identitaire, c'est le seul mouvement réellement qui, en France, a fait attention à ça et qui a dit l'intérêt de Pegida, c'est pas juste d'occuper la rue, c'est qu'on voit une partie de la droite allemande, d'un coup d'un seul, se durcir sur ces questions identitaires et culturelles, ce qui n'existait pas dans la droite allemande comme cela. Eux l'ont très bien vu. Et alors, je finis brièvement par rapport à ce que vous disiez. Le cas du Portugal, de l'Espagne, c'est très intéressant parce que ça nous montre bien que la question de la crise économique de 2008, la crise financière de 2008, pour expliciter le mouvement d'extrême droite aujourd'hui, est une mauvaise grille d'analyse. Vous regardez aux élections européennes de 2014 que vous évoquiez, vous prenez Barcelone. Vous avez 53% de chômage des jeunes sur cette zone-là, de la Catalogne espagnole. Or, on a 5 listes d'extrême droite, il y en a avec des positionnements tout à fait différenciés, ce qui permet en plus de tester ces positionnements. Il y en a pas une qui arrive à percer, elles sont en dessous de 1%.
Vous avez raison, et en même temps, Nicolas Lebourg, pardon de vous couper, finalement, ils n'ont pas le problème de l'extrême droite, vous avez raison, mais ils en ont un autre, c'est celui de l'indépendantisme catalan. Alors que peut-être qu'il y a un système de vase communicant qui joue là aussi.
Alors, l'indépendantisme catalan, ce qui est intéressant, c'est que justement, il n'est pas orienté à l'extrême droite, il ne faut pas se tromper là-dessus. Ouais. Il est au contraire orienté sur l'idée d'intégrer de manière optimisée la mondialisation néolibérale. Ce n'est pas comme le Front National en France, la récusation de la mondialisation. C'est au contraire l'idée, on sera meilleur si on intègre seul la Catalogne plutôt que l'Espagne, cette mondialisation néolibérale. Donc un mouvement complètement contraire. Mais non, on voit bien dans ces pays-là où les extrêmes droites ont été au pouvoir, les dictatures au Portugal et en Espagne sont tombées il y a 40 ans seulement, rappelons-le, que effectivement la façon dont les partis de droite ont su récupérer aussi, en particulier en Espagne, le Parti Populaire, une bonne partie de l'ancien encadrement franquiste, a complètement asséché l'extrême droite, et qu'en absence d'une crise culturelle, comme nous avons en France, c'est de manière évidente, je crois qu'il y avait encore Onfray ce matin sur votre antenne, avec cette crise culturelle, il y a un tambour extraordinaire pour les autres crises. Et on a cette crise financière, on a cette crise migratoire qui aujourd'hui, bien évidemment, participe de ces tambours.
Alors Nicolas Lebourg, faisons le grand plongeon dans le Parlement européen. Vous l'entendiez tout à l'heure dans le petit son que nous proposions. Juin dernier, donc presque un an, plus d'un an même après l'élection européenne, Marine Le Pen et Marcel De Graaf, députés européens du Parti pour la Liberté, fondé en 2006 par Geert Wilders, ont fondé leur groupe, l'Europe des Nations et des Libertés. On a là 39 membres, c'est donc le plus petit groupe du Parlement européen. Pourtant, Nicolas Lebourg, il y avait déjà un autre groupe d'extrême droite au Parlement qui avait été créé un tout petit peu avant, l'Europe de la liberté et de la démocratie directe, qui avait été créé d'abord une première fois en 2009, avec à sa tête déjà Nigel Farage, et puis également l'eurodéputé du mouvement 5 étoiles italien David Borrelli. Pourquoi avoir créé un nouveau groupe? En quoi est-ce que ces deux groupes sont parfaitement incompatibles, Nicolas Lebourg?
Alors, il y a plusieurs questions. En fait, il y a la ligne idéologique et il y a la stratégie, disons. D'abord, sur la question de la ligne idéologique, l'UKIP en Grande-Bretagne, le classer à l'extrême droite est quand même problématique. C'est un parti très hostile à l'Union européenne, c'est un parti très critique sur la question migratoire. Mais de là, le classer à l'extrême droite, c'est différent. Il n'y a pas quand même cette idéologie, alors je vais utiliser un gros mot, pardonnez-moi, organiciste. Le cœur de l'idéologie de l'extrême droite, c'est l'idée qu'une société, c'est comme un organisme vivant. Et ça, vous le trouverez dans les mouvements d'extrême droite qu'il y a autour de Marine Le Pen, dans tous. Vous ne le trouverez pas partout dans l'autre, et vous ne le trouverez pas à l'UKIP comme ça.
D'accord, ensuite, très bien Nicolas Lebourg, vous avez raison. Et en même temps, dans le groupe de Nicolas Farage, on retrouve une ancienne du Front National.
Alors,
tout donc, c'est que du point de vue idéologique, on n'est pas si éloigné.
Et parce qu'on arrive à votre question de la coalition. Parce que la question, à un moment, bien évidemment, c'est le pouvoir, et la question, c'est les stratégies. Quand on regarde au Parlement européen depuis 1979, l'éternel problème de tous les partis, bien évidemment, c'est d'avoir des relations qui ne les compromettent pas dans leur société nationale. Lorsqu'il y a des manifestations pour traiter l'extrême droite autrichienne de nazi, les Français se repoussent des Autrichiens. Lorsque c'est des manifestations en France contre Jean-Marie Le Pen, on voit les autres extrêmes droites qui se poussent. Quand c'était les Italiens dans les années 80, la même chose. Chacun a peur d'être contaminé, entre guillemets, dans sa propre société nationale. D'où des jeux très compliqués. Et ce qu'on voit bien, vous parliez par exemple des vrais Finlandais tout à l'heure en Finlande, c'est que lorsque les extrêmes droites doivent à un moment se dire « bon, c'est bien beau de protester, mais c'est quand même plus intéressant d'avoir le pouvoir ». Ou lorsqu'on pense, vous parliez du Parti de la Liberté aux Pays-Bas, qui a soutenu un gouvernement sans y participer directement. Qu'est-ce qui se passe d'un coup d'un seul? C'est que leur programme social, ils font un deal, pardonnez-moi la formule, avec les partis de droite. On baisse sur la question sociale, par contre on durcit les politiques migratoires très nettement et on mène des politiques d'austérité, de droite classique, avec par contre effectivement des mesures contre l'immigration. Et alors ça, on le voit très très clairement, en Finlande, les vrais Finnois, effectivement, ont accepté, pour soutenir le gouvernement, une coupe de 6 milliards dans le budget, 6 milliards d'économies à trouver, on passe à l'as le programme social, et en échange, effectivement, on va taper sur la question migratoire. Donc, on arrive à créer un consensus sur une ligne politique médiane qu'on peut qualifier d'ethno-libérale, un libéralisme ethnicisé. C'est pour ça que l'extrême droite reste à droite, qu'elle n'est pas, comme on nous dit parfois par rapport au Front National, quelque chose de plus fluctuant. Au bout du compte, on arrive à une ligne de synthèse entre la droite, la ligne économique de droite depuis les années 1980 et cette revendication d'un protectionnisme démographique.
Alors évidemment, on a les divergences, mais on a aussi les convergences. On a notamment trois grands pôles autour desquels se retrouvent tous ces partis d'extrême droite. Il y a évidemment le rejet des élites, il y a la dénonciation de l'immigration évidemment, et puis la critique des institutions européennes. Ça, c'est quand même trois grands thèmes autour desquels tout le monde se retrouve.
Tout à fait. Alors en plus, dans le son que vous passiez, c'était très bien choisi, il y avait une référence à la démocratie directe. Ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très très fort dans les extrêmes droites européennes. Disons, c'est post-2001, c'est l'idée que l'extrême droite doit exprimer un retour à des institutions réellement démocratiques. En face de ça, vous savez, il y a un grand trauma, par exemple, dans l'opinion française, c'est quand même le référendum de 2005 et l'impression qu'il a été trahi ensuite, que le nom du peuple, le nom souverain du peuple souverain, a été trahi par les élites. Et il y a quand même ce sentiment, et qui est un sentiment basé sur des faits, que nous vivons dans une Europe post-démocratique. Lorsque M. Juncker dit que la démocratie c'est inférieur au traité, il avalise sciemment cette idée et il le montre. Le cas grec, vous allez parler de la Grèce tout à l'heure, montre aussi en partie que nous sommes, même lorsqu'il y a un référendum, dans un état post-démocratique. Mmh. Et là-dessus, l'extrême droite porte sévèrement la critique. Donc critique de l'Union européenne, qui n'est pas une critique de l'Europe en soi. Quand on parle d'europhobie pour les extrêmes droites, on se trompe souvent. Il y a beaucoup d'extrêmes droites qui sont très pro-européennes au contraire. Mais une critique de l'Union européenne telle qu'elle est, une critique des démocraties nationales telles qu'elles sont, avec cette idée d'une captation par les élites, qui d'une part repose donc sur des faits tels que ceux que je venais d'évoquer, d'autre part sur leur tradition politique, puisque ce qu'on appelle le national-populisme, ça se forme à la fin du 19e siècle, et on parle à l'époque de faire une république référendaire, de faire des plébiscites législatifs, ce qu'on appellerait aujourd'hui des référendums, etc. L'extrême droite, à la fin du 19e, préconise ça aussi.
Alors, ce groupe parlementaire, l'Europe des Nations et des Libertés, regardez un petit peu comment il se compose. On a, pour créer un groupe, d'abord, rappelons-le, il faut 25 députés et il faut au moins 7 nationalités. Quand on regarde les partis qui sont affiliés au groupe qui a été créé par Marine Le Pen, on a donc le Parti de la Liberté aux Pays-Bas, on a le Vlaams Belang en Belgique, on a la Ligue du Nord en Italie, on a le Parti de la Liberté, le FPO en Autriche, on a deux élus également du Parti polonais Congrès de la Nouvelle Droite, et on a une élue, tiens, on a le jeu en miroir de tout à l'heure, une élue britannique exclue, elle, du UKIP, à la suite d'accusations de dépenses frauduleuses au Parlement européen. Mais faut pas croire, ça a été extrêmement difficile en réalité de créer ce groupe. C'est le résultat de longs mois de discussions.
Tout à fait, tout à fait. Et on voit bien, par exemple, qu'il y a quand même de grosses divergences entre un certain nombre de ces partis. Alors bon, en même temps, vous me direz, les coalitions, justement, parce que vous parlez de ça cette semaine, par définition, ça demande de mettre des gens qui ne sont pas entièrement d'accord ensemble, sinon ils seraient déjà ensemble, ce ne serait pas une coalition. Là, dans le cas présent, on voit bien qu'il y a des conceptions, le FPE, donc les Autrichiens, ou la Lega en Italie, sont des gens qui sont beaucoup plus sur une idée d'Europe des régions. Le Vlaams Belang en Flandre, ou le FPE en Autriche, sont sur des positions extrêmement libérales économiquement, même si le Vlaams Belang et le FPE ont essayé de récupérer un peu des marqueurs sociaux, c'est beaucoup plus libéral que les positions de Marine Le Pen.
Et dans, de ce point de vue-là, finalement, ils sont presque plus proches du groupe créé par le UKIP, par Nigel Farage.
Oui, on est sur des ambiguïtés, mais vous savez, en plus, la question de l'économie qui paraît centrale lorsqu'on parle de l'Union européenne, puisque c'est devenu la question centrale, en même temps, à l'extrême droite, et cela là aussi, si on remonte depuis le 19e siècle, l'économie n'est jamais qu'un moyen pour une vision politique. Lorsque Marine Le Pen parle d'un État stratège, ça s'intègre à la totalité de sa redéfinition du rôle de l'État, qui est effectivement beaucoup plus avancée que celle qu'avait Jean-Marie Le Pen, et donc c'est tout à fait conforme. Chaque mouvement utilise l'économie dans sa perspective idéologique à l'extrême droite. Je ne vais pas du tout comparer Marine Le Pen à Mussolini, mais pour que les choses soient simples, Mussolini, de son temps, était passé de position au départ qui était ce qu'on appelait l'État manchestérien, c'est-à-dire laisser aller, laisser faire le libéralisme, si vous voulez, bien évidemment, jusqu'au totalitarisme. Et ça ne l'a pas empêché, c'est le même bonhomme, c'est le même parti, c'est le même mouvement. Il y a une évolution comme ça très fluide. Ce n'est pas pour faire une comparaison du tout, bien évidemment, mais c'est pour vous dire qu'à l'extrême droite, l'économie est secondaire par rapport à la vision du monde, à la façon dont on va organiser la société.
Alors, il y a une autre grande difficulté, un énorme obstacle qu'il a fallu surmonter, c'est du côté de l'alliance avec le parti polonais de la Nouvelle Droite, qui a pu se faire à condition que les eurodéputés rompent avec leur leader Janusz Korwin-Mikke, qui est en juillet dernier, d'ailleurs, rappelons-le, qui, à propos des débats au Parlement européen portant sur la création d'un ticket de train valable dans toute l'Union européenne, avait fait ce salut nazi avec ces mots « Ein Reich, ein Volk, ein Ticket », c'est-à-dire voilà un royaume, un peuple et un ticket. Il a fallu beaucoup batailler pour faire cette alliance avec le parti polonais.
Alors c'était très compliqué parce qu'il faut bien voir que Marine Le Pen avait voulu sortir le Front National français de ses précédentes alliances. Parce que dans les alliances précédentes du Front National, il y avait tout le monde et absolument n'importe quoi, si je peux me permettre, des mouvements de type populiste, classique, il y avait aussi justement le Front National de Belgique, mais à côté de ça, vous aviez un parti comme Jobbik en Hongrie. Mmh. Alors Jobbik, ils s'inscrivent dans la tradition de ce qu'on appelait les croix fléchées en Hongrie, c'est-à-dire un fascisme radical, disons.
Ils étaient un peu trop ouvertement néo-nazis. Voilà. De la même manière qu'on n'a pas pu envisager d'alliance avec Aube Dorée.
Voilà, il y avait aussi Svoboda dans les anciens alliés. Donc Svoboda, c'est l'extrême droite ukrainienne, enfin un des mouvements de l'extrême droite ukrainienne, mais tout à fait dur hein, idéologiquement. Et donc Marine Le Pen a voulu couper avec tous ces gens-là. Elle a dit, on formera un groupe qu'avec des gens qui sont en gros des démocrates. Alors en plus, dans le cas de l'extrême droite polonaise, c'est vrai que sans vouloir caricaturer bien évidemment la Pologne, la question de l'antisémitisme dans les mouvements polonais est souvent assez forte. Hein, donc ça pose des questions, c'est délicat parce que le grand marqueur que refuse justement très clairement par exemple Geert Wilders ou Marine Le Pen, sur lequel elle a bâti une partie de son image, c'est sur la question de l'antisémitisme. On peut critiquer l'islam, mais il y a deux endroits où on se brûle les doigts, c'est l'inégalité des races et c'est l'antisémitisme, parce que l'inégalité des races et l'antisémitisme, ça rappelle le nazisme et ça vous brûle auprès de l'opinion publique. Donc ils ne voulaient pas des gens comme ça.
Et pourtant, c'est là que c'est très intéressant. Vous dites effectivement, elle a cherché à se débarrasser de cette image, cette question de l'antisémitisme. Le Parti populaire danois, donc sceptique, anti-immigration. Lui, il a refusé précisément de s'allier au FN, au Parlement européen. Et l'une des raisons qui a été avancée, c'est justement à cause de ce fond trop antisémite, faisant référence là, au propos de Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que Marine Le Pen n'est pas parvenue précisément à débarrasser son parti de cette image auprès des partis européens d'extrême droite. La dédiabolisation n'a pas fonctionné à ce niveau-là. Et c'est la raison pour laquelle le Parti populaire danois n'y est pas allé.
Et alors en même temps, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que justement nos homologues européens ont bien vu l'intérêt. Je dirais Marine Le Pen s'est beaucoup inspirée de Geert Wilders pour effectivement savoir affiner son discours et faire ce qu'on appelait la dédiabolisation. Je préfère appeler une stratégie de normalisation. De l'autre côté, les autres pays, les autres mouvements ont bien vu ce qui se passait en Autriche ou en Suisse, dont on parlait tout à l'heure. Il y a eu des exclusions de gens qui étaient parfois des cadres même historiques en Autriche pour ce qu'on appellerait aujourd'hui dans la presse française des dérapages, parce qu'ils ont bien vu qu'effectivement ces questions là, en fait, il valait mieux se débarrasser parfois de quelques gars, de se donner une image policée et que ça permettait de mieux parler aux classes moyennes, de faire moins peur aux classes moyennes et donc de les récupérer en partie électoralement. Et là, très clairement, on revient à cette question, chaque parti dans son pays doit se positionner par rapport aux autres mouvements en disant, vous voyez, moi je suis propre, je suis une droite nationale, sociale et populaire, comme aurait dit Jean-Marie Le Pen, et pas une extrême droite. Donc ça, c'est important pour eux.
Alors, une fois qu'on a fait ce bilan un peu sur les convergences et les divergences idéologiques, politiques, quel est le projet politique justement de ce nouveau groupe ? Est-ce que par exemple la question de la dissolution de la zone euro, qu'on entend parfois du côté de ces partis-là, est-ce que ça fait partie des projets politiques du groupe parlementaire ?
Vous mettez le doigt dans la plaie. Vous mettez le doigt dans la plaie parce que toutes les alliances entre les partis d'extrême droite en Europe, ce qui est quelque chose qui est fait dès l'après-Seconde Guerre mondiale. Il y a des constructions dès 1951 pour essayer de fédérer les mouvements. Le problème, c'est arriver à se mettre d'accord sur un programme commun entre nationalistes. Par exemple, entre les Autrichiens et les Italiens, il y aura très souvent des bisbilles et des portes qui claquent parce qu'il y a la question du Sud-Tirol, une région que chacun des nationalistes tend à penser qu'elle est pour lui, pour son pays. Donc, il y a toujours une très grande difficulté à se mettre d'accord. Si on regarde les alliés, les gens qu'il y a dans le parti qu'a fondé Marine Le Pen, Ils sont en gros d'accord sur la critique des organisations internationales, la critique de la confiscation des libertés populaires par la technostructure, d'accord sur la critique de la présence des arabo-musulmans. La ligne, le minimum commun idéologique et politique, c'est une ligne ethno-libérale, parce que très clairement, le Vlaams Belang, le FPE, l'État stratège protectionniste, c'est pas vraiment leur tasse de thé au départ. Donc, la ligne minimum idéologique, elle est là. Ils peuvent travailler autour de celle-ci. Ou bien, je vais vous dire un truc, un secret de polichinelle, avoir un groupe quand même au Parlement européen, ça sert nettement plus à avoir de l'argent, des moyens, de manière à faire de la politique dans sa société nationale, que de faire changer les choses au Parlement européen.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que si finalement il n'y a pas vraiment de projet politique, c'est qu'on ne sera pas en capacité finalement de peser au sein du Parlement. Mais vous avez répondu, c'est-à-dire qu'en fait, peser, ce n'est pas forcément l'enjeu. L'enjeu, c'est peut-être d'abord et avant tout d'obtenir des financements, c'est ça qu'il faut comprendre.
L'enjeu de Marine Le Pen, il n'est pas au Parlement européen de manière très très claire, il n'est pas dans les départements. L'enjeu de Marine Le Pen, c'est l'Élysée. Donc, à partir de là, elle a tout intérêt à récupérer les moyens qu'on lui donne, à avoir des collaborateurs rémunérés par le contribuable, de manière à pouvoir les faire travailler sur un projet, à faire tourner, à pouvoir travailler un peu sur des collectivités. On l'a bien vu lorsque le Front National a mis dans son bel organigramme, tout seul, comme un grand, les gens effectivement qui sont censés travailler pour lui à l'Europe. Bien évidemment, il n'y a pas que le Front National là-dessus, il n'y a pas que l'extrême droite là-dessus, soyons tout à fait clairs et honnêtes. Ne tombons pas dans des travers comme cela.
Oui, vous faites référence, faut expliquer peut-être pour les auditeurs, mais le président social-démocrate du Parlement européen, Martin Schulz, a saisi les instances antifraude de l'Union sur le cas de collaborateurs soupçonnés d'être rémunérés par l'Europe tout en faisant autre chose que de travailler pour le mandat européen de leurs députés. Ouais. On parle d'un préjudice d'un peu plus de 7 millions d'euros, mais vous avez raison de le dire, c'est pas une spécificité du Front National. Non. Finalement, de nombreux partis usent et abusent de tout ça.
Tout à fait.
Une toute dernière question avant de s'intéresser à la Grèce. Combien ça rapporte au parti de créer son groupe au Parlement? On a une idée
Oui, tout à fait, mais je ne l'ai plus à l'esprit, cher monsieur.
Bon.
oui, mais je ne l'ai plus.
Bon, mais en tout cas, c'est suffisamment important pour que, précisément, on ait envie de le faire.
Oui, et puis c'est important aussi, vous savez, sur la question de la crédibilité. Parce que pour chacun de ces partis, il y a toujours cette question de « êtes-vous crédible pour gouverner à l'échelle nationale ? Est-ce que vous ne risquez pas de faire peur à nos partenaires européens ?» C'est très important pour les mouvements d'extrême droite de dire « on a entendu François Hollande sur RTL, le président de la République, expliquer que si une région passait au Front National, ça risquait de faire peur à des investisseurs, etc. Il y a toujours cette idée-là qui est utilisée. Donc pour eux, c'est important de dire non, vous savez, on a des amis dans tous les pays d'Europe, dans tous les pays du monde, on est capable de s'entendre avec des gens, on est des gens normaux, oui. Puisque ça, c'est une réponse qui est une réponse obligatoire pour eux, parce que sinon, effectivement, ils donnent prise à cette critique.
Bon, j'ai retrouvé les chiffres. 3 millions pour la mise sur pied de la gestion du groupe. En tout cas, ça fait pratiquement 18 millions d'euros de financement pour les 4 prochaines années à venir. Voilà, Nicolas Lebourg.
Voilà, ça ne se refuse pas.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde, cette semaine, sur la question des coalitions. Aujourd'hui, les coalitions en politique. On est avec Nicolas Lebourg, en duplex depuis Perpignan, historien, chercheur au CNRS, Université de Montpellier. On va prendre la direction de la Grèce. En août dernier, 25 anciens députés de Syriza, opposés à l'accord passé entre le gouvernement de Tsipras et l'Union européenne, ont constitué un nouveau parti, l'Unité populaire, autour de l'ancien ministre de l'énergie, Panayotis Lafazanis, lors des élections législatives du 20 septembre dernier. L'Unité populaire n'a pas rassemblé beaucoup de voix, puisque c'était à peine 2,4%. 87% des voix exactement, avec aucun député à la clé. Syriza est donc parvenu finalement à se débarrasser des frondeurs.
Ça a été une bataille difficile. Aujourd'hui, je me sens légitime parce que le peuple grec nous a donné un mandat clair pour continuer le combat à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Les difficultés sont devant nous, mais nous avons une base solide. Nous savons où aller, où mettre les pieds et quelles sont nos perspectives. La sortie de crise ne se fera pas comme par magie. Ce sera à force de travail, en suivant un plan avec ténacité et en luttant.
Voilà donc victoire le 20 septembre dernier d'Alexis Tsipras, victoire du Premier ministre sortant lors des élections législatives anticipées. On va retrouver tout de suite Panagiotis Grigoriou, qui est historien, qui est ethnologue, un observateur de la vie politique grecque. Cet échec politique des dissidents montre que finalement, Panagiotis Grigoriou, Syriza, qui est une plateforme de courant extrêmement variée, ne peut pas exister sans Tsipras. En réalité, cette coalition politique, elle tient d'abord et avant tout autour de sa personnalité.
Écoutez, moi je dirais les choses un peu différemment. Vous avez raison, mais ce n'est que depuis peu que c'est comme ça. Effectivement, Syriza, moi j'appelle ça Syriza 2. Effectivement, Syriza 2 a tendance à devenir un parti organisé maintenant autour d'Alexis Tsipras et de son équipe, je dirais, des gens très très proches de lui, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire, en même temps, il y a une mutation de ces partis-là. Il devient un parti, ce qu'on appelle ici en Grèce, par exemple, un parti présidentiel, c'est-à-dire un parti où, effectivement, il y a une personnalité politique qui s'impose, voilà.
Et peut-être qu'il s'est imposé aussi parce que, du point de vue des Grecs, alors même si, d'une certaine manière, effectivement, il a échoué, puisqu'il a dû répondre aux attentes des créanciers, mais il a essayé, il s'est battu, et ça, peut-être que, du point de vue politique, il a été récompensé par cette capacité à se battre. Pourquoi, selon vous, cette scission de l'unité populaire a été un échec sur le plan politique? Est-ce que c'est parce que, finalement, les Grecs sont peut-être plus attachés qu'on ne le pense à l'euro, et donc ne sont pas prêts à voter pour des gens qui considère que la solution pour la Grèce, c'est une sortie de l'euro? Est-ce que l'unité populaire a été peut-être victime aussi d'une certaine manière du vote utile, parce que l'opposition, elle, remontait doucement dans les sondages? Comment voir les choses? Pourquoi cet échec, selon vous?
Je pense que l'unité populaire, premièrement, a échoué parce qu'elle ne s'est pas préparée de manière suffisante, pour le dire différemment, parce que les gens qui étaient à l'origine de cette unité populaire, c'est-à-dire l'ex-plateforme des gauches représentant à peu près 40% des cadres du parti Syriza, 35 à 40%, n'ont pas tenté cette scission avant, puisque des divergences de fond étaient bien visibles et bien dénoncées, je dirais, depuis des mois et des mois. Donc, ce n'est pas, je dirais, le rattachement des Grecs à l'euro, c'est plutôt les manques de préparation et pour les Grecs, en fait, le manque de sérieux de l'unité populaire en vue de représenter une telle voie alternative.
Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, après le départ des dissidents, justement, Syriza est un parti plus homogène qu'avant?
Ah oui, effectivement. Syriza est un parti homogène, beaucoup moins démocratique. C'est un parti où, effectivement, de manière assez officiel, d'ailleurs Alexis Tsipras lui-même l'a dit récemment, c'est une partie où il n'y aurait plus des tendances et des courants différents, ou en tout cas très différents, et alors c'est une partie qui effectivement fonctionnera mieux, si vous voulez, c'est-à-dire fonctionnera mieux, ses lignes ou sa ligne directrice sera mieux respectée. Hein.
Plus homogène, mais peut-être moins opposée à l'austérité. Hein. Vous avez vu, évidemment, cette loi balai prévoyant notamment de nouvelles coupes dans les retraites. Il y a aussi des hausses d'impôts qui ont été prévues, qui viennent d'être adoptées là, par 154 voix sur 300. On voit que la politique, finalement, d'austérité réclamée par les créanciers pour, évidemment, obtenir les prêts, elle se poursuit.
Oui, tout à fait. Vous savez ce qu'ils disent les Grecs? Les Grecs ont voté Syriza non pas par adhésion, ni par amour. Ils ont voté Syriza parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et en fait, ils attendent un peu. D'ailleurs, ils ne se sont pas tous déplacés pour aller voter parce qu'il y a eu au moins à peu près 10 points de moins de participation, ce qui est très important. Et ce n'est pas une adhésion, c'est un vote de désespoir, Syriza, actuellement. Ce qui est très négatif, à mon avis. Et ce qui n'est pas très rassurant pour Syriza non plus.
Pas très rassurant, justement, ça m'intéresse beaucoup. Projetons-nous un tout petit peu dans l'avenir. Est-ce que vous avez le sentiment que Tsipras, que Syriza vont pouvoir gouverner, disons, sur un temps long? Peut-être pas, mais disons, sur une période de quelques mois, voire un an, plus, peut-être deux ans. Ou est-ce que finalement, vous pensez que dans quelques mois, on va assister à une nouvelle crise politique, institutionnelle, qu'on va reconvoquer des élections? Vous croyez, là, en l'état actuel des choses, dans ce contexte, à une nouvelle stabilité politique pour la Grèce?
Moi, je pense qu'il y a une nouvelle stabilité, comme, je dirais, dans chaque pays occupé après une invasion. C'est-à-dire, bon, ça se stabilise. Les politiciens grecs ne sont pas les maîtres du pays, puisque tout est décidé ailleurs et toutes les lois sont écrites ailleurs. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a une stabilité. Après, la saignée sociale continue. Et là, c'est quand même l'inconnu. Je ne peux pas prédire et penser que dans un avenir plus ou moins proche ou lointain, il y aura des réactions politiques ou des réactions de la rue qui, évidemment, mettront le gouvernement de Tsipras dans des difficultés. Moi, j'ai l'impression que c'est parti pour un certain temps. C'est-à-dire que, comme pour l'instant, il n'y a pas d'autres forces qui préparent sérieusement l'alternative qui s'impose, c'est-à-dire la sortie de l'euro, on va continuer comme ça pendant, à mon avis, quelques années. Combien d'années, je ne sais pas.
Ouais, ouais. Dites-moi, on parle aujourd'hui, Panagiotis Grigoriou, de la question des alliances, des coalitions. Dès janvier 2015, le parti des Grecs indépendants, donc qui est un parti de droite, qui est un parti souverainiste, avait remporté une quinzaine de sièges, je crois 13 sièges exactement au Parlement grec, ce qui avait permis à Tsipras de former un gouvernement avec justement ce parti des Grecs indépendants. Et puis en septembre, bon, ils ont perdu, c'est vrai, 3 sièges. Ils n'ont plus maintenant que 10 sièges au Parlement, mais ils se sont maintenus dans le gouvernement de Tsipras II, notamment son leader Panos Kamenos et le ministre de la Défense depuis maintenant un peu plus de 9 mois. Comment comprendre cette coalition qui, en tout cas vue d'ici, paraît assez surprenante? Un parti de droite souverainiste qui s'associe à Syriza, qui est quand même de la gauche radicale.
Non, c'est une alliance tout à fait logique, puisque le socle de cette alliance est justement un certain souverainisme, la fin du mémorandum, c'est-à-dire l'arrêt de l'austérité et l'arrêt de cette politique qui fait donc de la Grèce un pays vassalisé vis-à-vis des créanciers. C'est à peu près ce qu'Alexis Tsipras disait la veille des élections de janvier. Et surtout le lendemain.
Oui, mais alors là, je vous suis, Panagiotis Grigoriou, sur la version de Tsipras 1, mais pas sur la version de Tsipras 2. À la limite, le parti des Grecs indépendants, il est plus proche, finalement, des dissidents de l'Unité populaire que de la version Syriza 2, quoi.
Oui, mais vous savez, ce n'est pas très, très compliqué. C'est que les Grecs indépendants savent bien que s'ils veulent poursuivre leur route politique et leur existence politique, il faut passer par là. C'est lié maintenant, j'ose pas trop appeler ça du jeu politicien, mais ça va au-delà du cheminement qui a amené cette première alliance de janvier. En tout cas, en janvier, les choses étaient beaucoup plus claires et relativement simples. C'est-à-dire, l'alliance, c'est pas sur la base des différends entre ce qui pourrait être une certaine gauche et une certaine droite, c'est comment faire pour lutter contre les mémorandums. Parce que cette alliance-là, a été initié suite à 2-3 ans de mouvements anti-mémorandum qui avait quand même il avait fait participer plusieurs personnes et mouvements politiques des gauches comme des droites. Bon, maintenant ce n'est plus la même chose, ça c'est certain. Et il faut attendre aussi, parce que si vous voulez, il y a eu un souci, c'est que les partis des Grecs indépendants n'étaient pas sûrs d'entrer au Parlement. Et donc Alexis Tsipras, Syriza si vous préférez, avait suggéré que peut-être une alliance serait possible entre Syriza 2 et d'autres petits partis.
Ce qui n'a pas été le cas.
Non, pour l'instant.
Oui, ça pourrait changer.
Oui, parce que si vous voulez, il y a eu des ouvertures qui ont été faites, je ne sais pas si vous l'avez peut-être lu dans la presse grecque, entre Syriza et un petit parti centriste d'un certain monsieur Leventis, qui vient de faire son entrée au Parlement avec à peu près 3%, et c'est pour la première fois. Donc il y a eu des ouvertures aussi, parce que malgré tout, il y a toujours des incertitudes. Si jamais la situation se détériore, la majorité actuelle pourrait perdre certains députés.
Merci beaucoup, en tout cas, Panagiotis Grigoriou, historien, ethnologue. Je rappelle votre livre « La Grèce fantôme, voyage au bout de la crise » qui était paru chez Fayard. Et puis j'indique aussi pour les auditeurs que vous êtes le fondateur de ce site gristerraincognita.com qui propose un voyage ethnographique dans le passé historique et civilisationnel du pays à bord d'un voilier naviguant en ce moment même sur la mer Égée. Merci beaucoup. Réaction, Nicolas Lebourg, vous qui êtes en duplex de Perpignan et pas sur la mer Égée. on le voit, hein, sur le cas de la Grèce, finalement, on peut s'allier avec les centristes, on peut s'allier avec les souverainistes de droite, on peut tout faire en politique, Nicolas Le Bourg. Hein.
On peut tout faire en politique, du moment qu'on gagne. Et c'est là toute la question. Parce que si Obdoré a pris de la place en Grèce, c'est parce qu'un autre mouvement d'extrême droite s'est écroulé, qui s'appelait le Laos. Et le Laos est mort de sa participation au pouvoir après 2011. Et Obdoré, qui était une petite secte néo-nazie fondée en 1980, a pu occuper de l'espace. On revient à cette question qu'on trouve très souvent sur la question des coalitions avec l'extrême droite. C'est qu'elle, je veux dire, c'est toujours dur, le pouvoir, le parti socialiste va le sentir là au régional, hein. Soyons sincères. Mais c'est encore plus dur souvent pour les partis d'extrême droite. Mmh. Et sur votre angle, sur la question des coalitions, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que justement, autant là-haut c'est mort, autant Obdoré reste à l'extérieur du pouvoir, est un parti milice qui assume tout à fait sa nature fasciste. Dans le cas d'Obdoré, on peut parler de néofascisme sans aucun souci. Ils ont mis un tout petit peu d'eau dans leur vin en abandonnant le néopaganisme pour être plus sur la défense de la religion orthodoxe aujourd'hui. Mais sinon, ils restent très radicaux. Et là, quels sont leurs alliés européens? On va les retrouver avec les Italiens de Forza Nuova, on va les retrouver avec les Italiens de Casapound, on va les retrouver avec les Catalans de Plateforma par Catalunya, etc. Et on va les retrouver dans l'Alliance pour la paix et la liberté au Forum conservateur à Moscou en 2015, avec le NPD allemand, avec tous ces autres mouvements, vous voyez, et avec ce prurite, si j'ose dire, et ce magnétisme pro-russe tout à fait clair, parce que, effectivement, ça permet de mettre en avant la multipolarité contre ce que serait le mondialisme. Donc, on voit bien qu'Obdoré évite la coalition à l'intérieur pour la chercher à l'extérieur.
Allez, on quitte la Grèce pour prendre la direction de l'Allemagne, cette fois. Hier, ils étaient environ, je le disais, 15 000 dans les rues de Dresde pour célébrer le premier anniversaire de Pegida, un mouvement islamophobe, anti-immigration, mouvement des patriotes européens contre l'islamisation de l'Occident, je mets des guillemets, qui est devenu l'un des symboles de cette Allemagne, disons populiste, qui craint d'être envahie par les émigrés et qui manifeste chaque semaine sa méfiance à l'égard des responsables politiques. Et d'ailleurs, les responsables politiques également commencent à dire une certaine inquiétude sur cette vague migratoire, y compris ceux qui font partie de la coalition dirigée par Angela Merkel. Écoutez, Horst Seehofer, donc président de la CSU, leader donc de l'Union chrétienne sociale en Bavière, qui est considéré comme le parti frère de l'Union chrétienne démocrate d'Angela Merkel. Écoutez-le.
Wir brauchen diese Begrenzung der Zuwanderung, um die Solidarität in der Bevölkerung zu erhalten, die erfreulicherweise nach wie vor hoch ist.
Nous avons besoin de limiter l'immigration avant qu'elle ne soit trop forte, afin justement de préserver le principe de solidarité. Et nous avons besoin d'établir des frontières face à l'immigration pour garantir notre sécurité intérieure. Il ne s'agit pas du tout de terrorisme et de criminalité au sens large, et nous devons ici être très vigilants. Ce qui justifie notre revendication de limiter l'immigration, en particulier à Berlin, c'est notre souhait, dans ces circonstances, de préserver la bonne volonté, l'ouverture et la solidarité de la population. Quand l'immigration ne réussit pas, alors les principaux intéressés dans cette histoire sont les petites gens, qui se trouvent au centre et à la base de la pyramide des revenus, et par conséquent, il est dans notre intérêt commun que cette intégration, dès maintenant, soit renforcée quand elle réussit et qu'elle soit financée par l'État.
Voilà, Horst Seehofer, président de la CSU, donc qui fait partie de la coalition, qui demande la limitation de l'immigration, c'était il y a quelques jours, le 9 octobre dernier, qui a critiqué cette chancelière, qui l'accuse d'avoir ouvert sans condition des frontières aux réfugiés. C'est une erreur qui va nous occuper encore longtemps, disait-il. Bonjour Hélène Mière de la Croix.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en histoire et civilisation.
Non, je suis professeur.
Professeur, pardonnez-moi, veuillez me pardonner. Professeur à l'université, à la Sorbonne, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça.
Voilà. Alors, pendant plusieurs semaines, Hélène Mière de la Croix, c'est vrai qu'Angela Merkel avait été, disons, acclamée par les Européens en général, par les Allemands en particulier, qui se disaient favorables à l'accueil des réfugiés. Aujourd'hui, l'opinion a tourné. D'ailleurs, dans les derniers sondages, la CDU est en recul. 48% des Allemands critiquent désormais cette politique généreuse de Merkel vis-à-vis des migrants, ce qui profite d'ailleurs au Parti Populiste Alternatif pour l'Allemagne et au Parti Libéral, le FDP. Dans quelle mesure est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la stabilité de la coalition allemande, formée, rappelons-le, par la CDU, le CSU et le SPD de Sigmar Gabriel? Est-ce que cette coalition du gouvernement Merkel 3 est aujourd'hui en danger?
Alors, sur le papier, elle peut être en danger dans la mesure où, comme vous le savez, l'Allemagne a un système fédéral et surtout un système parlementaire pur, c'est-à-dire que la stabilité et l'existence même d'un gouvernement dépend du vote du soutien du Parlement. Donc il est toujours possible, d'un jour à l'autre, que la majorité du Parlement se délite, se défasse, et que un autre gouvernement soit prévu. Ça, c'est sur le papier, parce que même si l'on entend donc le chef de la CSU, le ministre-président, donc le chef du gouvernement de la Bavière, être assez critique sur les choix qu'a fait la chancelière, il n'empêche qu'il est assez peu probable, pour l'instant, si l'on peut imaginer cela, que la CSU amène, si vous voulez, la chute du gouvernement Merkel, puisque les deux partis, comme vous l'avez dit, la CDU et la CSU, sont des partis frères. Ce sont des partis qui ont toujours été ensemble, soit dans l'opposition, soit dans la majorité, mais même s'ils ne sont pas toujours en accord complet, ce sont des partis qui se tiennent.
Est-ce que vous pensez que pour cela, justement, pour éviter cette dislocation de la coalition, il va falloir qu'Angela Merkel accorde quelques concessions à la CSU?
Alors oui, si vous voulez.
Et lesquelles?
C'est une opération un peu compliquée à laquelle doit se résoudre Madame Merkel, c'est-à-dire qu'elle doit à la fois gérer l'immédiat, le problème tel qu'il se présente quotidiennement en Allemagne, elle doit assurer la pérennité de sa coalition, et surtout, elle doit respecter la souveraineté relative qu'ont les États fédérés à l'intérieur du système fédéral, qu'est l'Allemagne fédérale. Et ce n'est pas un hasard si celui qu'on entend le plus, c'est Horst Seehofer, qui est le ministre-président de la Bavière, qui est le Land d'Allemagne, qui a reçu et qui reçoit tous les jours aux premières loges, si vous voulez, les afflux de réfugiés.
225 000 réfugiés entre le 1er septembre et le 3 octobre.
Oui, c'est-à-dire que, enfin, on a du mal à imaginer le tour de force que cela représente pour les communes de la Bavière, pour l'État de la Bavière, qui doit parer au plus pressé et essayer d'obtenir à l'intérieur de l'Allemagne fédérale que d'autres Länder accueillent des réfugiés de la même façon que l'Allemagne fédérale essaie d'obtenir de ses partenaires européens qu'ils accueillent aussi certains réfugiés. Donc c'est un exercice difficile qui s'inscrit dans une situation constitutionnelle où Horst Seehofer, ce n'est pas seulement un partenaire de la coalition pour la chancelière, c'est un autre dirigeant, si vous voulez, à l'intérieur de la fédération.
Donc, il y a les concessions qu'on pourrait faire à la CSU, mais il y a aussi peut-être la pression de la montée du Parti populiste allemand alternatif pour l'Allemagne, qui a annoncé d'ailleurs récemment avoir déposé une plainte contre la chancelière Angela Merkel pour traite d'êtres humains. Alors, on se demande si finalement cette plainte, elle pourrait aboutir. Et puis, plus globalement, la question qu'on se pose, c'est dans quelle mesure est-ce que Merkel pourrait être déstabilisée, perturbée par cette montée en puissance du Parti populiste?
Alors, elle peut être déstabilisée, perturbée, pas directement politiquement, parce que, en l'état actuel des choses, les intentions de vote pour ce parti AfD, donc l'alternative pour l'Allemagne, qui se nourrit de cette grogne qui s'exprime tous les lundis dans la rue par le mouvement Pegida, ce nouveau petit parti, qui est un parti de protestation, n'a pour l'instant qu'à peu près 7% des intentions de vote. Donc on ne voit pas comment la grande coalition...
Ce qui est énorme quand on regarde traditionnellement ce qui existe en Allemagne. Il n'y a quasiment pas d'existence politique de l'extrême droite en Allemagne depuis des décennies.
Oui, en effet, c'est plutôt le parti d'extrême droite, le NPD, qui a obtenu localement dans certains Länder de l'Allemagne fédérale, donc dans l'ancienne RDA, si vous voulez, des résultats ponctuels à des élections régionales au-dessus des 5%, leur permettant d'entrer dans les parlements régionaux. Mais ça n'a jamais été bien loin et ça a été en reflux. En effet, donc, cette situation apporte d'un seul coup de l'eau au moulin d'une extrême droite. Pour autant, et il faut toujours dans une comparaison entre l'Allemagne et les autres pays européens, même si on sait qu'en Allemagne la question fait plus peur, les proportions sont infiniment moindres que dans les pays voisins, si on compare notamment avec la France et le Front National. Donc elle n'est pas, si vous voulez, la coalition actuelle n'est pas menacée réellement dans ses fondements par l'apparition de ce parti. Il n'empêche que les questions qui sont posées interpellent en effet un gouvernement dont je rappelle qu'il est composé d'une grande coalition, comme on dit en Allemagne, c'est-à-dire centre-droite, droit, centre-gauche, donc très très large, et qui a le soutien de 500 députés sur les 631 qui sont au Bundestag.
Hélène Miard de la Croix, évidemment, j'ai posé la question qu'on a dû vous poser des dizaines de fois, parce que Merkel, elle a toujours gouverné avec une coalition. Aujourd'hui, c'est CDU, CSU, SPD. Pour Merkel 2, c'était CDU, CSU, FPD. Entre 2005 et 2009, c'était déjà CDU, CSU, SPD. Avant elle, Gerhard Schröder avait gouverné avec une coalition. Helmut Kohl s'était appuyé lui aussi sur une coalition, CDU, CSU, FPD également, comme Merkel aujourd'hui. Comment expliquer cette culture de la coalition politique en Allemagne ?
Alors, on peut dire que c'est une culture et on peut dire aussi que c'est du réalisme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un gouvernement allemand trouve sa légitimité par le vote des députés au Bundestag. Il faut donc qu'il y ait au Bundestag une coalition de partis qui accepte de soutenir un gouvernement. Une seule fois dans l'histoire de l'Allemagne fédérale, au tout début des années 50, le chancelier Adenauer a réussi à diriger seul, à gouverner seul avec la CDU-CSU sans aucune alliance. Sinon, tous les autres gouvernements de l'Allemagne fédérale sont, par nature, si vous voulez, contraints à accepter un compromis. Alors après, on va dire quelle est la poule et quel est l'œuf. Est-ce qu'on sait particulièrement bien faire en Allemagne parce qu'il y a cette culture du réalisme et donc de la nécessité du compromis qui se matérialise lorsqu'un nouveau gouvernement se forme par un contrat de coalition où on écrit noir sur blanc pendant des semaines ce sur quoi on est d'accord et sur quelle base on va gouverner.
Nicolas Lebourg, on arrive au terme de cette émission. Mes réactions, c'est vrai que cette culture du compromis, du réalisme, de la coalition en Allemagne, elle nous fait rêver, nous, ici en France, hein, Nicolas Lebourg.
Je sais pas si elle nous fait rêver, parce qu'en même temps, la différenciation de l'offre politique...
Un peu de réalisme, ça fait pas de mal.
C'est une question subjective. Par contre, absolument. Objectivement, ce qui est certain, c'est que si on regarde par exemple le cas de l'Autriche, l'indifférenciation de l'offre politique entre les socialistes et les conservateurs, c'est justement ce qui a toujours fait le lit du FPE. Il n'est pas impossible qu'en France, on ait ce genre de problème. Et c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Vous savez, le premier grand discours contre les migrants, c'est Enoch Powell, un Tory anglais, donc un conservateur, pas quelqu'un d'extrême droite, qui en 1968 prédit des fleuves de sang si on continue la promiscuité raciale en Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va nourrir le vote pour l'extrême droite, le National Front. Les Tories vont dire on se calme.
Donc c'est pas toujours une bonne nouvelle politique, c'est ça que vous voulez nous dire ?
Les lecteurs préfèrent l'original à la copie. Ça vaut de la droite à l'extrême droite, de l'extrême droite à la droite, dans tous les sens. Si vous perdez votre autonomie politique, si votre offre politique est trop indifférente, vous y perdez. Marine Le Pen l'a très bien compris, qui actuellement met le braquet sur la crise des migrants, pour bien se différencier des Républicains, qui tiennent parfois des discours assez durs également.
Merci beaucoup à tous les deux, Hélène Miard de la Croix. Je rappelle votre livre, Le défi européen de 1963 à nos jours. Quant à vous, Nicolas Lebourg, dans quelques jours seulement, il faut attendre encore un tout petit peu les droites extrêmes en Europe que vous avez coécrit avec Jean-Yves Camus. انا بسمعني بدي غني بدي اقول انا مش مصارع انا رابر عنده مشاكل قضيه شعب عم بينازع بيدور على الحريه. Merci à tous les deux en tout cas, et également à Panagiotis Grigorio, nous avoir éclairé sur cette difficile question des coalitions dans le monde politique. Un grand merci à tous les trois.